بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Chers frères et sœurs, toutes les louanges reviennent à Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité de nous réunir via cet outil donc qui nous permet là ce soir de reprendre les programmes après les grandes vacances. Allah Rabbul Azza a décrété dans sa sagesse que cette reprise se fasse dans des situations un petit peu complexes. On s'était séparés bidnillah avant les vacances dans des conditions beaucoup plus favorables sur le plan sanitaire. Allah a décrété que les choses soient totalement différentes et nous vivons sans le moindre doute une situation de grande épreuve, ibtila, une situation d'épreuve où Allah Rabbul Izza envoie une difficulté, une, ce qu'on appelle un ibtila, et en fonction de cette épreuve, chaque personne aura une réaction différente. Il y en a qui vont s'en remettre à Allah Azza wa Jal en suivant la voie de notre prophète alayhi salat wa salam, qui est la voie du juste milieu. Et cette voie du juste milieu, c'est être capable d'avoir confiance en Allah, de placer toute sa confiance en Allah. C'est le sens profond de « wa iyyaka nasta'in », c'est auprès de toi que nous cherchons secours et refuge, et en même temps accomplir les actions qui nous permettent de concrétiser ce qu'on appelle la sunnah d'Allah, l'organisation d'Allah Azza wa Jal sur ce dunya. Comment est-ce qu'Allah a décrété que les choses fonctionnent dans ce monde? Qu'Allah a décrété que si une personne habite ou réside dans une ville, dans un pays, dans un endroit où il y a une maladie, et que la personne ne doit pas quitter cette localité et aller dans un endroit où le fléau n'existe pas, autrement le mal risque de se propager. Le juste milieu, c'est avoir confiance, une conviction inébranlable sur le fait que c'est Allah qui donne la vie et la mort, qui donne la santé, qui donne la maladie, mais c'est également prendre conscience qu'Allah a organisé ce monde avec justement ce qu'on appelle cette sunnatullah, cette sunna, et qui nous a été donc enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam par le biais du hadith que nous venons de citer. Donc il y en a qui vont, alhamdulillah, adopter la position du juste milieu, d'autres vont développer une notion de confiance en Allah qui est déséquilibrée, c'est-à-dire une confiance, j'ai presque envie de dire une confiance aveugle, mais ça ne s'appelle pas une conscience aveugle, mais c'est une confiance dénouée de toute conscience réelle, et où on se dit que c'est Allah qui organise tout, et maintenant il n'y a pas de nécessité ni de porter le masque, ni de prendre telle précaution. C'est un extrême. Et l'autre extrême, c'est la personne qui va rester apeurée avec cette crainte et cette conviction que la maladie peut le toucher à n'importe quel moment, et que c'est la maladie qui s'autocontrôle, qui se gère elle-même, et qui décide quand est-ce qu'elle touche une personne, et que c'est le hasard entre guillemets, qui fait que certaines personnes vont croiser un porteur sain, quelqu'un d'asymptomatique ou quelqu'un qui est malade, et que ce hasard fait que la personne va être contaminée. Donc ça, c'est un autre extrême où la personne a totalement oublié qu'Allah Rabbul Izzah est au-dessus de tout cela. Parce que tout vient d'Allah, c'est Allah qui a créé cette situation et cette maladie qui est une épreuve est sous le contrôle du divin. Donc on aura trois catégories de personnes. Et Allah a décrété que nous vivons et que nous sommes en train d'évoluer dans une période où vraiment la confiance en Allah est, c'est le mot-clé de l'intervention d'aujourd'hui, c'est le husnul dhanni billah, c'est avoir une pensée positive. C'est avoir une bonne pensée à propos de notre Seigneur. C'est ce qui va nous permettre, dans cette situation d'épreuve qui dure depuis plusieurs mois, c'est ce qui va nous permettre d'avancer. D'avancer et de, on va dire, de puiser au plus profond de notre cœur, de notre iman, pour trouver les ressources du fameux « wa iyyaka nasta'in », c'est auprès de toi que nous cherchons refuge. Et pour développer cette notion de confiance totale en Allah Azza wa Jal, chers frères et sœurs, il est essentiel d'avoir ce qu'on appelle le « husnul dhanni billah ». Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette expression « husnul dhanni billah », la pensée positive à propos d'Allah, et son contraire, c'est, est-ce que quelqu'un connaît comment on dit le contraire de « husnul dhanni billah » Si quelqu'un à la réponse, peut brancher son micro et prendre la parole. Le husn, le contraire, c'est sou. Donc c'est le sou dhann billah. C'est la personne qui a une pensée, Luqman allait le dire, barakallah fik, je le vois brancher son micro. Le sou dhann billah, c'est ce croyant qui a une pensée négative à propos de son Seigneur. C'est-à-dire que la personne qui est, je donne un exemple, hein, et qu'Allah nous protège de ce cas de figure, j'allais presque dire c'est un profil psychologique. Ce n'est pas un profil psychologique, c'est un profil spirituel, on va dire de faiblesse spirituelle, où une personne est dans l'épreuve et elle n'arrête pas de remettre en cause et en question le décret divin, en se disant que Allah m'a oublié. Où est la clémence de Dieu dans cette situation, alors que moi je fais telle chose, mais malgré ça il m'est arrivé telle chose, alors que moi je fais doua, j'invoque mon Seigneur, je lui demande protection contre telle chose, yom ba'de yom, chaque jour, et que malgré ça je suis atteint par telle difficulté, ça c'est ce qu'on appelle souvan billah. C'est quand une personne n'a plus d'espoir en Allah, ou que la personne a un jugement biaisé. Un jugement négatif à propos de son Seigneur. Qu'est-ce qui fait qu'une personne va avoir husnul dhanni billah et une autre sou'udh-dhanni billah? Les savants disent que cela découle directement de notre ma'rifatuka billah, de notre connaissance de notre Seigneur. Le mu'min qui étudie les noms et les attributs d'Allah et qui a appris à connaître son Seigneur, assurément, le natija, le résultat direct d'une connaissance, mashallah, profonde, une connaissance correcte des noms et des attributs d'Allah, un résultat direct, c'est le fait que le croyant aura une pensée positive en son Seigneur. Et le husnul dhanni billah est utile, ce n'est pas utile, c'est essentiel dans notre vie de ce dunya, mais en celui qui garde cette husnul dhanni billah aura cette chance. Soyez attentif, c'est une notion importante. Celui qui vit avec une pensée positive, une husnul dhanni billah, cette personne aura la chance de garder cette pensée positive en Allah au moment de mourir. Parce que le but de l'intervention, c'est le chapitre, j'ai oublié de le dire, on est en train d'avancer dans le livre de Jalaluddin Suyuti concernant la mort. On avait vu ce que la mort apporte aux croyants. Et le chapitre, le huitième chapitre que le cheikh explique, c'est « Tahsinu dhanni billahi wal khawfi minhu » faire en sorte que le mu'min, durant sa vie, éprouve la crainte d'Allah. Mais avant de mourir, faire en sorte que ce croyant quitte ce monde avec une pensée magnifique à propos de son Seigneur, avec un cœur rempli d'espoir, avec une conviction qu'Allah va l'accueillir et bien l'accueillir et l'honorer et accepter son passage sur ce dunya. Maintenant, les savants disent que avoir cette tranquillité du cœur au moment de mourir, cela ne relève pas de la force psychologique ou d'un entourage qui va vous encourager. Non, c'est le résultat d'un parcours spirituel. C'est le résultat d'une pensée positive en Allah. C'est tout simplement le résultat d'un lien direct entre notre cœur et notre Seigneur. Nous avons ce croyant qui multiplie les actes d'adoration, les prières, les lectures de Coran, les dhikrullah, mashallah. Tout ça, ce sont de bonnes œuvres, de bonnes choses. Mais cette personne les accomplit comme un simple, et le mot simple étant guillemets, un simple rituel, sans comprendre les tenants, les aboutissants, l'objectif, qu'est-ce qu'il recherche, qu'est-ce que cela doit m'apporter, qu'est-ce que cela doit me permettre de développer ensuite dans ma vie, dans mes relations avec les autres, qu'est-ce que ces ibadah m'apportent en lumière, et comment est-ce que ces bonnes actions doivent maintenant m'éloigner des péchés. C'est-à-dire en occultant malheureusement tout le côté spirituel de la bonne action, en le gardant juste comme un rituel. Et ce croyant qui vit sa religion uniquement comme un rituel, que ma vie du croyant c'est je me réveille, je fais mon fajar, l'après-midi zohor, et ensuite le asar, maghrib, isha, je lis mon yassin le matin, al-waqi'a après maghrib, tabarak alladhi avant de dormir, et je suis réglé comme du papier à nazam, du papier à nanchit, pour ne pas dire papier à musique, et c'est une vie qui est meublée, certes, de bonnes actions, mais à aucun moment, ce croyant pense à son Seigneur au plus profond de son cœur. Ce croyant ne va même pas pousser cette porte immense qui est la connaissance de Al-Asma wa Sifat, la connaissance des noms et des attributs d'Allah, ce qui fait que son cœur est vide. Ses membres cumulent les bonnes actions, mais déjà il ne trouve pas la concentration ni la dévotion dans ses prières, parce que quand il prie, il ne fait que réciter des formules. réciter les lectures, les versets, les tasbihat, mais à aucun moment lorsqu'il se dresse debout devant son Seigneur et qu'il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, il n'arrive pas à se figurer qu'il est devant le Seigneur des mondes, qu'il le voit, qu'il observe, qu'il entend, qu'il sait ce qu'il y a de son cœur. Et quand il va dire les noms les plus aimés par Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, il ne réalise pas non plus qu'il est en train de citer les noms qui vont le sauver. Et sa relation avec son Seigneur est basée sur cette clémence. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que ce cœur ne se connecte pas, malheureusement, comme il le faut avec Allah Azza wa Jal. Ce qui fait qu'il n'y aura ni une pensée positive à propos de son Seigneur, ni une pensée non plus négative. C'est-à-dire cœur vide. Qalbun ghafil. Pas ghafil de le sens d'insouciant, mais un cœur qui est vide de réalité, de foi, de connexion avec le divin. Alors que le husnul dhanni billah, la pensée positive sur notre Seigneur, nous permet premièrement de trouver la concentration et la dévotion des bonnes œuvres. À partir du moment où nous savons que quand nous nous mettons debout dans la prière, Allah nous regarde avec amour, affection, il nous accepte et nous écoute, et Allah est attentif, et que à chaque lecture, à chaque verset d'Al-Fatiha, Allah Rabbul Izza répond aux croyants, mais tout ça, ça permet au mu'min maintenant de développer un lien très fort avec Allah Azza wa Jal. Également, lorsque le mu'min est en train de faire ses invocations, je fais mes doigts, à partir du moment où j'ai une pensée positive, une pensée, une husnul dhanni billah, ben j'ai espoir qu'Allah m'entend et qu'Allah va exaucer mes demandes, qu'Allah va m'enlever de ces situations difficiles, va m'accorder khair ad-dunya wal akhirah, et ainsi de suite. C'est-à-dire que cette personne qui connaît son Seigneur par ses noms, ses attributs, et qui trouve bien sûr le juste milieu de la connaissance sur Allah Azza wa Jal, entre les noms qui mènent vers la clémence, la bonté, la générosité, la bienveillance de notre Seigneur nous concernant, mais également les noms et les attributs d'Allah qui nous permettent de comprendre qu'Allah est shadidul iqab, qu'Allah est azim, qu'Allah est grand, il est puissant, mais il n'aime pas non plus qu'on le désobéisse, qu'Allah est capable de sévir, de punir, de se, entre guillemets, venger de certaines personnes. C'est-à-dire le juste équilibre entre ces noms qui l'apportent, qui lui donnent espoir, et ces noms qui font naître la crainte en Allah Azza wa Jalla, c'est ce juste équilibre qui permettra aux mu'mines de développer une pensée positive en Allah Azza wa Jalla. Et ce que j'ai dit tout à l'heure en introduction, à partir du moment où je connais mon Seigneur et donc j'arrive à développer cette pensée positive en Allah Azza wa Jalla, ben toute ma vie sera construite autour de cette husn dhanni billah. Je le retrouve dans mes bonnes actions, dans mes invocations, dans mes moments de joie, dans mes moments de détresse, dans mes moments d'épreuve. Et au moment de mourir, le mu'min automatiquement ressentira dans son cœur une pensée positive en son Seigneur, et il se classera parmi cette catégorie qui est très rare de mu'mines qui, avant de mourir, sont heureux et contents de rencontrer Allah Azza wa Jal. Il y a un hadith de lequel le prophète alayhi salat wa salam nous rappelle « Man ahabba liqa Allahi, ahabba Allahu liqa'a ». Celui qui aime rencontrer Allah, Allah aime le rencontrer. Aimer rencontrer Allah, c'est une notion qui peut être un peu étrange, un peu peut-être même mal perçue dans notre société. Ça veut dire quoi? Aimer rencontrer Allah, ça veut dire très clairement la personne qui est prête à mourir à n'importe quel instant, à n'importe quel moment. À une époque, on s'accroche à la vie, on recherche les plaisirs, et quand on est malade, on a peur qu'il nous arrive quelque chose de grave, et ainsi de suite. On développe des psychoses et tout ça. Le mu'min qui a un husnul dhanni billah, qui vit toute sa vie, on va dire, avec cette pensée positive en son Seigneur, lui sera gratifié par cette qualité de foi qui est le fait d'aimer la rencontre avec Allah et d'être prêt à n'importe quel moment de quitter ce monde pour rejoindre son Seigneur. Et c'est pour ça que cher Suyuti Rahimahullah cite cette qualité de foi, husnul dhanni billah, parce qu'il est en train de décrire la situation du croyant au moment de mourir, inda sakarat il maut, dans l'agonie. Qu'est-ce que nous devons dire à une personne qui est en train donc de quitter ce dunya? Et on va peut-être voir les textes ce soir, mettre en avant ses bonnes actions, la clémence divine, le pardon divin, afin que ce croyant ait le cœur apaisé. C'est-à-dire, ça, ce sont les mots que nous allons essayer de dire aux défunts, mais ce croyant, comme on a dit, qui a vécu avec cette pensée positive en Allah Azzawajal, il l'aura de son cœur. Et il sera même satisfait, même si on ne le voit pas. Il peut être dans l'hôpital, dans le coma, ou une situation même, Allah protège, dramatique, suite à un accident ou autre chose. On n'en est peut-être pas conscient, mais cette personne est déjà contente et heureuse de retrouver son Seigneur parce qu'il a grandi, parce qu'il a évolué, parce qu'il a avancé dans son cheminement spirituel avec une pensée positive en Allah Azza wa Jal. Donc, ikhwan et khawati fillah, les textes que nous allons essayer de voir quelques-uns aujourd'hui, on va dire que ce sont des textes extrêmement importants et qui doivent nous inviter à une réflexion profonde sur notre état de iman, notre état de foi, notre spiritualité, et non pas une réflexion sur les bonnes actions que j'accomplis ou les péchés que je délaisse. Ça, ce sont des réflexions, on va dire, que nous menons régulièrement, qu'on se fait du souci pour sa foi. Mais là, on va au-delà des œuvres, des bonnes et des mauvaises actions. C'est vraiment dans mon cœur, qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que je connais Allah réellement dans mon cœur ? Est-ce que c'est un cœur qui s'est d'abord connecté, qui a d'abord aimé Allah, qui a d'abord éprouvé la crainte d'Allah et qui a concrétisé cet amour et cette crainte d'Allah par la prière, par l'aumône, par la lecture du Coran, en délaissant l'adultère, en délaissant l'intérêt, en délaissant le vol, en délaissant les paroles mensongères, ainsi de suite. Ça, c'est le croyant. Ou alors, c'est un cœur qui, malheureusement, c'est un cœur qui est vide de pensée d'Allah et qui ne fait que reproduire quelque chose qu'il a appris. Ça peut être l'éducation, ça peut être la madrasa, ça peut être le fait de voir les gens ou une impression d'avoir une identité culturelle qui est l'islam, qui n'est pas une identité culturelle, mais qui est de la foi, qui est iman, qui est une religion. Et donc, ikhwan et khawati fillah, c'est fondamental. Donc, l'analyse que nous devons essayer de faire au quotidien, et comme j'ai dit, que ça nous permet d'arriver à une réflexion, qu'est-ce qu'il y a réellement dans mon cœur ? Est-ce qu'il y a l'amour d'Allah ? Est-ce qu'il y a la crainte de Dieu dans mon cœur ? Et si je l'ai, c'est une bonne nouvelle, et je dois fructifier, renforcer ces a'mal al-qulub, ces actions intérieures, en accomplissant de bonnes actions maintenant, des actions a'mal bil-jawarih, des bonnes actions avec cette présence de cœur, et tout ça va renforcer la foi. Et le iman va s'enrichir et va nous permettre, mashallah, d'atteindre de hauts degrés de iman jusqu'à arriver à la taqwa, d'arriver au ihsan, le plus haut degré de foi, de vivre dans l'obéissance, restant éloigné du péché, avec un cœur profondément amoureux d'Allah Azza wa Jal et rempli de crainte et des bonnes actions qui concrétisent cet amour et cette crainte de Dieu, vivre jusqu'à le moment fatal où les signes de la mort arrivent, le sakaratul maut, et là, mon cœur sera totalement apaisé avec une pensée positive sur mon Seigneur, et je quitte ce monde avec des personnes autour de moi qui me rappellent cette pensée positive en Allah, et je quitte ce dunya avec des anges qui, cette fois-ci, viennent et m'annoncent « Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna, irji'i ila rabbiki, radiyatan mardiya » qui m'annonce la bonne nouvelle qu'Allah est satisfait de moi et la bonne nouvelle que Allah est content donc de m'accueillir. C'est ça la vie que je souhaite. C'est ça la vie du moumine que nous souhaitons. Et non pas, je le répète, je le dis tout le temps, et non pas ce croyant qui a robotisé les ibadas et qui pense que l'islam c'est un cumul de bonnes œuvres. Et quand on est dans cette situation où on est persuadé que je suis le meilleur parce que je mémorise le Coran ou parce que je fais telle chose, des fois on se permet de prendre les autres un peu de haut, de se sentir supérieur spirituellement aux autres, mais ce serait totalement erroné. Une personne qui, comme on dit, ne paye pas de mine, qui ne donne pas l'impression d'être très engagé dans sa spiritualité, peut être plus proche d'Allah que nous parce que c'est quelqu'un qui vit des épreuves au quotidien et qui développe une patience exceptionnelle que nous ne pouvons même pas imaginer. C'est-à-dire que, ikhwan et akhawati fillah, le lien avec la relation avec Allah, ce n'est pas aussi simple que parfois nous le pensons. C'est pas uniquement faire plein de bonnes choses. Ça démarre du cœur, ça s'accompagne avec les bonnes actions et ça demande istiqama, une fermeté jusqu'à la mort. Et vous savez, on parlait de cette pensée, de la situation, de la stabilité de la personne au moment de mourir. Il n'y a pas besoin de parler uniquement de la mort. Dans un hôpital ou face à une maladie ou dans l'attente de résultats d'un test ou de d'analyse de sang et ainsi de suite, c'est-à-dire un moment qui est fatidique, qui est extrêmement important, nous voyons parfois ce qu'il y a au plus profond de nous, entre la personne qui va angoisser excessivement, la personne qui sera confiante, c'est-à-dire parfois dans les situations, des petites situations d'épreuve, nous laissons émerger un petit peu le fond de notre foi et de notre confiance en Dieu. Que dire maintenant? Et dans des situations-là, personne ne peut faire semblant, ne peut jouer la comédie. Si on est inquiet, on est inquiet. Ça se verra, ça s'entendra, on va le ressentir. Et celui qui a le cœur apaisé, on verra également. C'est quelque chose de très clair. On ne peut pas se mentir à soi-même, ni aux autres, à des situations où on est dans l'adversité. Que dire maintenant de la mort, qui est la séparation, qui est la fin de notre parcours de ce monde? Et le simple fait parfois d'évoquer la mort, qui est la séparation de l'âme, du corps, mais c'est également quitter ses proches, délaisser ses biens et aller vers l'inconnu, il n'y a rien de plus angoissant. Mais dans cette situation d'angoisse, ne vous inquiétez pas, le moumine trouvera la tranquillité du cœur. Et justement, concernant cette tranquillité du cœur, avant même de parler de husnul dhanni billah, si on peut se permettre un hadith, un premier texte d'introduction ce soir, nous avons le hadith de lequel notre prophète alayhi salat wa salam, je retrouve le texte, Balaghani, c'est le hadith a été rapporté par Tirmidhi rahimahullah. Balaghani an an-nabi alayhi salat wa salam annahu qala, il m'a été rapporté, c'est Al-Hassan, donc petit-fils du prophète alayhi salat wa salam, qui dit qu'il m'a été rapporté que le prophète alayhi salat wa salam a dit qala rabbukum qu'Allah a dit. C'est ce qu'on appelle, comment on appelle ce genre de hadith? Je vous donne la parole. Comment appelle-t-on Ayaz ou Luqman, Salim ou d'autres qui veulent prendre la parole? Comment appelle-t-on ce hadith où notre prophète alayhi salat wa salam nous dit qu'Allah a dit? Je vous écoute. J'ai entendu hadith Kursi. Kursi, plutôt. Kursi. Pas Kursi, bien sûr. Kursi, c'est une chaise. Et on s'est peut-être trompé avec Ayatul Kursi, mais c'est bien aussi, Ayatul Kursi. Non, le hadith Kursi, c'est lorsque notre prophète, alayhi salatu wassalam, nous rapporte quelque chose qui vient d'Allah, azza wa jal, mais qui n'est pas wahi dans le sens du Coran. Ce n'est pas mot pour mot la révélation divine. Non, ce hadith Kursi stipule que votre Seigneur a dit لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين. Je n'accorde pas à un de mes serviteurs deux tranquillités dans une même existence. Tout comme je ne ferai pas habiter le cœur d'un de mes serviteurs par deux craintes dans une même existence. Alors, ça veut dire quoi? On ne peut pas évoluer. C'est-à-dire dans une même existence, c'est entre dunya et le akhira. On ne peut pas avoir une vie depuis que Allah nous a créés jusqu'à la fin des comptes. On ne pourra pas avoir une crainte de ce monde et de l'au-delà, en même temps fusionnée, ou alors une tranquillité tant dans ce monde que de l'au-delà. Hadith, je pense, qui est plus ou moins connu. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, ce sont des termes très éloquents à travers ce hadith. Et le prophète m'explique, « Faman khafani fi dunya » Allah Rabbul Izzah lui dit donc, « Celui qui éprouve, celui qui a peur de moi, qui me craint, dans le sens qui a de la taqwa, la crainte d'Allah, de ce dunya, Allah promet que le jour de Qiyama, son cœur ne sera pas habité par la crainte. Je répète, celui qui éprouve, qui a de son cœur la crainte d'Allah dans ce monde, cette personne a la garantie, a la promesse d'Allah, que le jour des comptes, son cœur ne sera pas habité par la crainte. Alors que dans les textes qu'on a eu l'occasion, il y a quelque temps, d'étudier concernant l'au-delà, la résurrection, la vision des scènes terribles du Akhira, les gens seront épris d'une peur que l'être humain ne peut même pas concevoir. Mais dans ces situations, on va dire, chaotiques, où on n'a plus de repères, on n'a plus du tout de repères, il y a des personnes qui auront le cœur apaisé et le cœur tranquille. Et parmi ces personnes qui auront le cœur apaisé et tranquille, Allahumma ja'alna minhum, ce seront ces personnes qui, dans ce dunya, n'ont pas vécu avec un cœur dénué de crainte divine. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas eu un qalbun rafil. Et c'est là que le terme qalbun rafil intervient réellement. C'est quelqu'un qui n'a pas eu un cœur insouciant. Qu'est-ce qu'on appelle un cœur insouciant? C'est la personne qui n'a aucune pensée à propos de son Seigneur. Qui ne se soucie même pas du regard d'Allah sur lui. Dans les moments où il se doit d'accomplir les bonnes actions, il ne se presse pas, il ne se fait pas du souci concernant ses devoirs envers son Seigneur. S'il le peut, s'il arrive à le faire, il le fait. S'il n'arrive pas à le faire, il ne ressentira aucune culpabilité. Face au péché, ce qu'il va rechercher en priorité, c'est le plaisir immédiat. Maintenant que ce soit une action qui provoque la colère d'Allah, une action qu'Allah déteste, la personne fera fi de tout ça. Et la seule chose que cette personne va rechercher, comme on a dit, c'est al-maladha. C'est les plaisirs de ce monde, c'est contenter son nafs, c'est ittiba'ul hawa, suivre ses passions, ses instincts. Autant d'expressions en arabe qui traduisent ce cœur insouciant qui a totalement oublié Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que cette personne, ce croyant qui dans ce monde, je le répète, vit avec ce cœur insouciant où il ne se fixe aucune limite et ne ressent pas ce sentiment de devoir envers son Seigneur, se laisse aller à ses passions, à ses instincts, sans jamais craindre Allah, cette personne, là du coup je fais une explication globale du hadith, cette personne le jour de Qiyama ne pourra jamais avoir le cœur apaisé, parce que la tranquillité il l'a pris de ce monde. C'est soit on l'a de ce monde, soit on l'a de l'au-delà. Celui qui a choisi le cœur léger de ce monde, assurément, le jour de Qiyama, cette personne sera dans cette catégorie majoritaire des gens qui seront effrayés par l'au-delà. Allah, nasallallahu alayhi wa sallam. Alors que, Allah maja'alna min al-ladina, qu'Allah nous accorde la qualité qu'on va citer, celui qui dans ce dunya vit avec la crainte d'Allah, mais de façon permanente, ça ne veut pas dire non plus que la personne ne vit plus. Ça ne veut pas dire que la personne ne prend aucun plaisir à apprécier la vie ou que la personne ne connaît pas une vie familiale ou une vie même amoureuse ou une vie de couple ou une vie où la personne ne prend plus de plaisir aucunement. Ce n'est pas, il n'y a pas d'extrême dans la religion, mais que la personne respecte les limites qui ont été fixées par Allah. Et dans les situations de tentation et de péché, ben cette personne évite et fait tout ce qu'elle peut pour rester distante de toute action qui mène vers le mécontentement divin. Et dans les obligations, il va essayer de parfaire son lien et ses relations avec Allah, faire en sorte que dans chaque bonne œuvre, il y a la présence de cœur et il y a le devoir qui est accompli. C'est-à-dire que ce croyant qui a dans son cœur l'amour et la crainte d'Allah, ben, cette personne-là, le jour de Qiyama, n'aura aucune crainte. Et c'est ce que nous voulons développer. C'est pour ça que depuis l'introduction, on parle beaucoup de ce que nous pensons réellement de notre Seigneur, de notre cœur. Et parce que si nous arrivons à développer ce lien de notre cœur avec notre Seigneur, et que dans notre cœur, il y a l'amour et la crainte d'Allah, et cet amour et cette crainte se concrétisent par de bonnes œuvres, ça se concrétise par l'éloignement des péchés, ça se concrétise par une confiance totale en Allah et une acceptation des décrets et de ce qu'Allah a prédestiné avec une confiance et une husnudhanni billah totale, une pensée positive en Allah, ben c'est ce qui nous permettra de vivre et de mourir correctement dans l'obéissance, d'être ressuscité parmi les pieux et d'avoir le cœur apaisé et léger le jour le plus effrayant jusqu'à, Inch'Allah, accéder au Jannah. C'est cette qualité que nous devons développer et ça commence par une analyse de ce que nous avons au plus profond de notre cœur. C'est pour ça que nous insistons tout le temps sur l'étude des noms et des attributs d'Allah qui nous permettra de développer une pensée positive en Allah Azza wa Jal et qui va être vraiment les ressources dont nous avons grandement besoin pour avoir la conviction et la présence de cœur dans toutes les bonnes œuvres. Donc ce hadith Qudsi, qui est un hadith de base, nous permet de comprendre. Si nous avons cette crainte d'Allah, nous avons la garantie le jour de Qiyama d'avoir cette tranquillité. Maintenant les savants disent en commentaire de ce hadith, comment développer cette crainte d'Allah au quotidien ? Comment développer cette crainte d'Allah au quotidien ? On peut se dire, certains peuvent se dire que oui, mais ce n'est pas du jour au lendemain que je vais devenir un muttaqi, un homme pieux. C'est pas du jour au lendemain que je vais atteindre le ihsan, le plus haut degré de foi. Certes, ce n'est pas un cheminement qui se fait en un clin d'œil, mais ça se construit à chaque instant, à chaque décision, à chaque prise de parole, à chaque fois que, à chaque situation d'épreuve dans ce dunya. Ça commence par le contrôle de son regard. À chaque situation d'épreuve par rapport à ça, ben, se dire que je me contrôle pour Allah. Chaque fois que j'ai l'occasion de dire une parole qui peut être déplacée, je m'en abstiens pour Allah. Et voilà comment est-ce que le dîn, comment est-ce que la religion, elle est construite par des actions, par des choix, parfois des micro-choix, des choix du quotidien qui ne paraissent pas essentiels. Ça, parfois, on peut se dire que ça pèse pas lourd, mais c'est comme ça qu'on construit la foi à chaque moment de notre vie. Et ce mu'min qui, on parlait du regard par exemple, ce mu'min qui, dans une situation d'épreuve, hein, pour le regard ou pour la parole, ou quelle que soit la nature du péché, bien sûr, et que la personne donc délaisse quelque chose de mauvais ou d'interdit uniquement pour Allah Azzawajal, là il y a un autre hadith qui va s'imbriquer. Il y a un autre hadith qui va intervenir. C'est Man taraka shay'an lillahi, a'awadahu Allahu khayran minhu. Celui qui délaisse quelque chose, c'est-à-dire comprenez quelque chose de mauvais, par amour et par crainte d'Allah, ma'al qudrati alayh. Les savants disent que, alors que ce péché t'est totalement accessible, mais tu le délaisses pour Allah, a'awadahu Allahu khayran minhu, Allah l'accorde. On peut presque dire en échange, on va dire plutôt en compensation, Allah l'accorde quelque chose qui est mieux. Et cette chose qui est meilleure, c'est quoi? Les savants disent à la lumière d'autres hadiths, c'est la fameuse halawatul iman, la douceur de la foi. Et la douceur de la foi, c'est vraiment ce que nous recherchons, c'est ce qu'il y a au plus profond de notre cœur lorsque la foi atteint un degré qui est, mashallah, qui est respectable et qui a, une fois qui a progressé, le mu'min ressent l'apaisement du cœur. Et c'est en délaissant les péchés au quotidien que ce iman va se renforcer et que nous allons parvenir, inshallah, à ressentir la douceur de la foi quand nous prions, quand nous lisons le Coran, quand nous faisons le dhikrullah. Je reprends l'exemple qu'on avait dit en introduction, même si on est un peu dans, pas dans tous les sens, mais dans beaucoup de sens, mais il y a un point de départ qui est le cœur, et ce que nous essayons de développer là en conclusion, c'est, je prends l'exemple de le dhikrullah. Hein. Quelqu'un prend son sabbaha ou autre, ou même sans sabbaha, le tasbih, je voulais dire, peu importe la façon qu'on fait le dhikrullah, on aura la personne qui dit subhanallah, alhamdulillah, akbar, avec un cœur vide. Il le fait parce que c'est une bonne action. Après la salat, il faut dire 33, 33, et ainsi de suite. Il le fait, mashallah. Qu'il obtienne les récompenses, inshallah. Allah est généreux. Et puis, il y a cette personne qui, en disant alhamdulillah, il ressent vraiment ce shukr, qu'il remercie son Seigneur pour tout ce qu'il a accordé. Et quand il dit Allahu Akbar, il ressent la grandeur et la puissance d'Allah Azza wa Jal. Voilà un exemple concret d'un cœur qui est totalement vide et un cœur qui, mashallah, à goûter au halawatul iman, à la douceur de la foi. Chaque bonne action va augmenter la foi et va lui permettre de trouver encore plus de dévotion et de concentration. Qu'Allah nous accorde ces qualités. On va conclure avec le hadith que nous avions l'intention de développer et qu'on le fera, inshallah, par la suite. Enfin, il y en avait plusieurs de hadiths. On va en choisir un. On va aller vers une citation d'Ibn Abbas, radiallahu anhu, et puis les hadiths nécessitent un peu plus d'explication, ça on gardera pour une prochaine fois. Ibn Abbas, radiallahu anhu, nous dit que « Idha ra'aytum ar-rajula bil mawti » lorsque vous voyez une personne dans les derniers instants de sa vie. Je pense que ça nous est déjà arrivé d'être auprès d'un proche qui est en train de mourir. Une situation délicate, difficile, certes déchirante, mais dans ces moments-là, nous ne devons pas nous laisser aller aux émotions uniquement. Certes, le cœur est gros, le cœur est rempli de chagrin, mais au-delà de l'émotion, on doit avoir une certaine clairvoyance. On doit garder l'esprit, on doit rester lucide. Et déjà dans mon cœur, je sais, je comprends que cette personne qui est en train de nous quitter, mon grand-père, ma grand-mère ou autre, c'est quelqu'un qui ne va pas disparaître totalement. Non, il est dans une situation de transition, de passage entre ce dunya et le akhira. Ainsi donc, Ibn Abbas, radiallahu anhu, conseille, si vous voyez une personne dans ces moments, fabashiruhu, annoncez-lui la bonne nouvelle. Annoncez-lui la bonne nouvelle de quoi? Qu'Allah va l'accepter. Rappelez-lui les bonnes actions qu'il a accomplies de ce dunya. Rappelez-lui la grandeur, la clémence, le pardon divin. Comment Allah est latifun bi'ibad, est bienveillant envers ses serviteurs. Hatta yuhsina dhanna billahi ta'ala. Afin que ce mu'min quitte ce monde avec un cœur rempli d'espoir en Allah azza wa jal. Fa inna. Hada. On va s'arrêter là. C'est ce que Ibn Abbas radiallahu anhuma nous donne comme conseil par rapport à la personne qui quitte ce dunya. Il y avait un autre texte que je ne vois pas là, mais khayran, où il est cité que tant que la personne est dans ce dunya, est vivante, il faut que ce mu'min, si on a un rappel, qu'on peut faire un rappel à un frère ou une sœur, c'est de lui faire un rappel concernant la crainte d'Allah. C'est-à-dire, tant qu'on est vivant, essayer de développer la crainte d'Allah. Mais quand on est dans les derniers instants de notre vie, ce n'est plus le moment de rappeler à celui qui est en train de mourir. Donc, ce n'est plus le moment de lui rappeler la crainte d'Allah, mais au contraire, qu'il quitte ce monde avec un cœur rempli d'espoir en Allah. Qu'Allah Rabbul Izzah nous accorde la réalité de la foi et que nos cœurs deviennent vivants. Et que dans nos cœurs s'installe l'amour et la crainte d'Allah, et que dans nos bonnes actions nous parvenions à ressentir la douceur de la foi, et que cette douceur de la foi prend de l'ampleur chaque jour en abandonnant les péchés et en accomplissant les bonnes actions, et qu'Allah nous garde à la sirat al-mustaqim, de le droit chemin, jusqu'au moment où nous allons revenir vers lui. Ma tawfiqi illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursaleen. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan.